France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Au cours de ces instants, Aimé Césaire, par José Pivin en 1966. Aimé Césaire, voix des opprimés, un des fondateurs du mouvement de la négritude. Né en 1913 en Martinique, il fut essentiellement poète et aussi homme politique, député, maire de Fort-de-France pendant 56 ans. Aimé Césaire parle à José Pivin du caractère noir, de son humanisme profond, de l'expérience de la race noire irréductible à d'autres, petit historique de l'esclavage et du colonialisme. Enfin, le poète nous dit pourquoi il écrit et est passé de la poésie au théâtre. Des extraits des pièces d'Aimé Césaire, « Et les chiens se taisaient », « Une saison au Congo », « La tragédie du roi Christophe », sont lus par Alain Cuny, Med Hondo, Sylvia Monfort, Douta Sec et Jean Topard.
Au cours de ces instants, une émission réalisée par José Pivin qui présente aujourd'hui Aimé Césaire et l'Afrique. Des scènes des tragédies de Aimé Césaire et les chiens se taisaient, la tragédie du roi Christophe et une saison au Congo seront interprétées par Alain Cuny, Sylvia Monfort, Douta Sec, Med Hondo, Jacqueline Scott-Lemoine, Lucien Lemoine, Catherine Georges, Suzanne Michel, André Fouché, Yvan Labéjoff, Jean Marconi, Gérard Dournel, Henri Gilabert, Jean Topard et Jean Negroni. Chef opérateur du son, Jean Jusford. Collaboration technique, Yann Parentehen. Assistant, Daniel Nan.
Au cours de ces instants que nous allons passer avec Aimé Césaire, nous verrons s'avancer sur les rivages d'un monde d'avenir, un homme chargé des forces que peut nous apporter l'expérience ancestrale et l'hétéropropice. Aimé Césaire, pour que nous puissions mieux comprendre vos attitudes, vos démarches et vos réactions, voulez-vous nous dire si, d'après vous, il existe entre un homme noir et un homme blanc, par exemple, une différence qui va plus loin que le fait d'être né sous des climats différents et d'avoir d'autres souvenirs.
Bien entendu, je pense qu'il n'y a pas d'âme noire en soi comme une sorte de substance. Seulement, je pense que les différences qu'il y a entre les hommes, entre les noirs et les blancs, par exemple, sont réelles. Elles ne sont pas biologiques, mais elles résultent de la culture. Autrement dit, elles résultent de l'histoire même des hommes confrontés et avec telle ou telle difficulté. On a toujours dit que, au fond, la grande unité humaine a été rompue lorsque s'est faite en Europe l'apparition de l'esprit scientifique, l'apparition de la logique, l'apparition de l'esprit cartésien, enfin, on met ça sous le dos de Descartes, mais enfin, il y a tout un mouvement de pensée qui est commencé depuis très longtemps, la séparation du sacré et du profane, tout cela, eh bien, il est clair que l'homme noir est encore l'homme d'avant cette séparation. Par conséquent, il y a chez lui une pensée, car c'est quand même une pensée qui est d'avant le monde des catégories. Et il y a un intellectualisme moins hérissé et un contact, je crois, plus direct avec les choses, avec le monde et avec l'autre, avec l'homme. Je pense que toutes les virtualités, toutes les potentialités existent pour n'importe quel homme, mais il se trouve que en Europe, très vite, l'esprit a pris une direction déterminée, a été jusqu'au bout de cette direction. Alors que dans les autres collectivités, on trouve des rudiments, on trouve quelque chose qui montre une direction possible. Mais enfin, il faut le reconnaître, l'esprit européen a été jusqu'au bout d'une logique bien particulière.
Pour vous-même, peut-on vous demander ce qui fait que vous voulez être particulièrement africain.
Je ne veux pas, je constate. Et si j'écris des poèmes, c'est précisément pour essayer de prendre possession de ce moi intime, de ce moi profond, à côté duquel je ne veux pas passer. Mais enfin, il y a des obsessions, il y a des désirs, des souvenirs, et tout cela, je le sens, en fait, confusément. Et si je l'exprime poétiquement, c'est parce que je le sens confusément, profondément, mais confusément.
Et ce n'est pas uniquement dû au pays, puisque, au fond, l'Afrique, vous ne la connaissiez pas.
Ben c'est ça qui me trouble. C'est bien ça qui me trouble. Et qui me fait croire qu'il y a vraiment une sorte de mémoire, d'au-delà de la mémoire. Mais ces grands coups de sonde que constitue l'acte poétique, c'est ça que ça fait remonter à la surface, en réalité. Et je m'aperçois d'une chose, par exemple. Certains motifs. Le naufrage, la barre, le voyage marin, certaines visions. Eh bien, je m'en suis rendu compte il n'y a pas tellement longtemps. C'est qu'il y a vraiment pour moi ce choc, ce traumatisme provoqué par la traite des Noirs. Je ressens, presque comme une sorte de hoquet, ce sentiment de déracinement, de séparation d'avec quelque chose. Et la traite des Noirs, c'est une chose qui est pour moi un événement extrêmement important et je dirais presque vécu.
Comment se fait-il que la traite se soit faite plus particulièrement chez les Noirs que dans une autre race ?
C'est ça, une de nos singularités. Quand je parle de la race noire, on me dit que je fais du racisme. Et je passe mon temps à dire, dans le groupe auquel j'appartenais, politiquement, que c'est quoi le problème noir n'est réductible à aucun autre. C'est pas du tout parce que je veux être particulariste, mais je ne crois pas du tout à l'homme universel. Ce sont des expériences humaines. Il y a l'expérience du juif, il y a l'expérience du nègre, ils ne sont pas réductibles aux autres. Moi, je me permets de penser qu'il ne suffit pas simplement de résoudre le problème social. Pourquoi qu'on va résoudre le problème juif ou le problème nègre ? Nous avons quand même le droit, nous autres, ou juifs ou nègres, d'insister sur cet aspect des choses. L'expérience nègre, c'est celle-là, c'est celle de la traite, c'est celle de l'humiliation, c'est celle de l'esclavage, et aucun groupe ne l'a connue avec ses déterminations. Le juif a été très méprisé. Non, je ne crois pas qu'il ait été méprisé, surtout le juif, parce que tout le monde a toujours su que les juifs sont intelligents. Les nègres ont été la seule race qui a été ramenée au niveau de l'animalité et traitée comme telle. Donc c'est une chose qui est unique.
Et comment expliquez-vous le fait que l'esclavage, la traite du travail, se soit particulièrement produit en Afrique ?
Ah ben, on est mal tombé, si vous voulez. Vous savez que pendant tout le XVIe siècle, mon Dieu, il n'y a pas de racisme en France et en Europe. Mais le racisme a commencé à partir du moment où est née la colonisation. Parce qu'il fallait légitimer ces entreprises. La première discrimination dans les colonies était quand même celle qui a été faite par des gens qui trouvaient en face d'eux des gens qui n'étaient pas chrétiens. Au nom de quoi pouvaient-ils discriminer les Aztèques ou les Incas, qui étaient plus civilisés qu'eux ? Ou au moins aussi civilisés qu'eux ? C'est parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, c'était des païens. L'esclavage est apparu pour des raisons très précises. Au fin 16e et début du 17e siècle. On avait besoin de sucre, on avait besoin d'épices, qu'on appelait les épices. Et les îles ont eu pour ça une très grande importance. N'oubliez pas que, par exemple, au traité de Paris, Louis XV a eu le choix entre la Martinique et le Canada. Il a préféré la Martinique. Pourquoi ? Voltaire disait « le Canada, c'est quelques arbres de neige ». Mais en réalité, c'est parce que tout simplement, le Canada, ce que ça pouvait fournir, c'était les mêmes produits qu'en Europe. C'était du blé, par exemple. Mais pour les économistes du XVIIe siècle, c'était même un danger. Voici donc un pays et une colonie qui aurait fait concurrence à la métropole. Les seules terres qui étaient intéressantes étaient celles qui pouvaient fournir des choses que la métropole ne fournissait pas, et en particulier le sucre. Et le sucre a été pendant tout le XVIIIe siècle le seul produit qui ait permis à la France d'avoir une balance commerciale excédentaire. On a commencé par introduire à la Martinique, par exemple, et en Haïti, qui s'appelait Saint-Domingue. En ce temps-là, la main-d'œuvre européenne, c'était les braves paysans de l'Ouest de la France en général, qui s'engageaient pour 3 ans, et ils n'ont pas tenu le coup. À ce moment-là, les Européens, ils sont abouchés avec des roitelets de l'intérieur. On leur donnait des marchandises, et ils payaient en esclaves. Mais il fallait bien légitimer cela. Donc, par conséquent, il fallait bien montrer que le nègre n'était pas un homme ou était un être inférieur. Il fallait prouver que le nègre fut une bête pour pouvoir le traiter en bête.
Mais n'y a-t-il quand même pas, entre les races d'hommes, des différences d'aptitude à faire telle ou telle chose, à ressentir ceci plutôt que cela? Je ne parle pas, bien entendu, de l'aptitude à être traité en esclave ou en prisonnier de camp de concentration.
Bien sûr, c'est sans doute vrai. J'accepte tout cela à une seule condition, c'est que ça ne soit pas fondé sur une biologie. Vous savez, je suis toujours braqué, je me souviens très bien des théories de Renan expliquant, et Renan en réalité avait bel et bien subi l'influence de Gobineau. Et Renan a bel et bien écrit que les races sont spécialisées, si vous voulez, que le blanc c'est le guerrier, de la dire que c'est le conquérant et c'est le noble, il n'y a qu'un pas, que le jaune était avant tout l'ouvrier et que le noir était avant tout l'homme de la terre, donc par conséquent le paysan, donc l'esclave. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis toujours sous mes gardes lorsque on me pose des questions de ce genre-là. Ceci étant dit, il est tout à fait évident que l'histoire très différente que ces différents groupes humains ont subi ont fait naître ou se développer telle qualité plutôt que telle autre. Autrement dit, si jamais on faisait la table rase un beau jour et qu'on mettait tout le monde dans les mêmes circonstances, il est tout à fait évident que le résultat eût été le même, même si la couleur de la peau est différente. Tout ce que nous avons dit étant vrai, l'expérience étant extrêmement différente d'un groupe humain à l'autre, il est tout à fait évident qu'il y a, semble-t-il, malgré les variations individuelles à l'intérieur des groupes, en gros, on peut en gros dire qu'il y a des qualités qui sont en moyenne plus courantes dans tel groupe d'individus, dans tel groupe humain, plutôt que dans tel autre, encore une fois, étant bien entendu que cela n'a qu'une valeur d'indication extrêmement générale, et l'existence même de tel et tel individu se chargeant de nuancer la vérité très générale de cette constatation.
Vous avez longtemps utilisé la poésie sous sa forme la plus pure, le poème, comme moyen d'expression. Voulez-vous nous dire maintenant pourquoi vous paraissez vouloir utiliser la forme théâtrale pour vous exprimer?
La forme théâtrale me permet précisément de, si vous voulez, de mettre la poésie à la portée des autres. À vrai dire, tout ce qui est dans mon théâtre est déjà dans ma poésie. Pour moi, j'ai toujours l'impression que j'écris un seul et même poème, et c'est la même chose. Mais enfin, par la force des choses, le mode d'exposition, si vous voulez, est différent. Donc, par conséquent, le théâtre permet au public d'appréhender plus facilement ce que je veux dire. Bon, il y a ça. Bon, probablement, je pense. Et puis, enfin, il y a, si vous voulez, un peu la commande sociale, comme dirait Mayakovsky. Je considère que, au moment où nous sommes, c'est un moment très difficile pour l'Afrique. Tant qu'il s'agissait uniquement de libérer l'Afrique du colonialisme, ça, c'était la partie épique, si vous voulez, donc exaltante. Difficile, parce qu'à cause des difficultés matérielles, enfin, il n'y faut que du courage. Et, tandis que, après la libération, commence un autre stade. Bon, la liberté ou l'indépendance, on l'a, mais qu'en faire? Et, quelle voie choisir? Comment édifier la nation? Quel est le rôle de l'homme dans tout cela? Quel avenir on lui prépare? Comment va-t-on faire la synthèse entre le passé, la tradition et le modernisme? Va-t-on jeter par-dessus bord la tradition? Voilà, très pêle-mêle, toute une foule de problèmes que confronte à l'heure actuelle l'homme d'Afrique ou l'homme ex-colonisé. Il serait puéril de croire que la réponse est toute faite, cela n'est pas vrai. Et il me semble que ce sont ces lendemains assez amers de retomber de la ferveur. Et là, il faut plus que du courage viril, celui qui permet de prendre les armes, il faut autre chose. Et cela, à mon avis, ne peut guère être traité que par le drame. Autre, si vous voulez, je considère un peu que le théâtre, c'est la vie, mais la vie qui réfléchit sur elle-même. Eh bien, or, c'est ça l'Afrique à l'heure actuelle. L'Afrique est à l'âge où elle essaye de se comprendre, où elle se cherche, et essaie de comprendre son destin. Par conséquent, l'Afrique est arrivée à l'âge de la théâtralité.
Par rapport à la poésie, le théâtre a un autre avantage, si j'ose dire. C'est le fait qu'on n'est pas obligé de le lire.
Ah, bien sûr, c'est un formidable moyen de communication. Alors, si vous voulez, je considère que le moment de l'ésotérisme est passé, et maintenant, il faut se faire entendre, et il faut, sans renoncer à ses richesses intérieures, mais enfin, il faut établir la communication. Or, c'est un moyen magnifique que celui du théâtre, surtout si on le considère comme nous l'entendons en général dans nos pays, c'est un peu comme la synthèse de tous les arts. Poésie, je ne conçois pas un théâtre qui ne soit pas vraiment poétique, hein, poésie, mais aussi chant, mais aussi danse, plastique.
Quelle est la première pièce que vous ayez écrite ?
C'est une vieille chose, déjà. Moi, j'ai écrit en 1945 un poème qui est une pièce. Ça s'appelle Les chiens stésés, qui fait partie d'ailleurs des Armes miraculeuses. Je ne l'ai même pas écrite pour la scène, mais je l'ai construit un peu comme une tragédie grecque primitive. C'est comme ça que je l'ai conçu. Et comme en France, on n'aime pas particulièrement le théâtre poétique, et ça n'a jamais été joué. Cependant, ça a intéressé les Allemands. Vous savez que les Allemands ont une sorte de boulimie théâtrale. Et puis ensuite, deuxièmement, il faut dire, ça c'est un peu péjoratif que j'ai une boulimie théâtrale, mais en plus, ils ont aussi une tradition de théâtre poétique. Pourquoi j'ai appelé ça les chiens stésés ? Mais moi-même, je n'ai pas su pendant très longtemps. Vous savez, le personnage, c'est un rebelle. Ça s'appelle le rebelle. Il n'a pas de nom. Il est absolument indéfini. C'est la révolte, si vous voulez. Et qui marche à la mort. Et qui sait qu'il va mourir. Donc c'est déjà une tragédie. Un peu comme la tragédie de Christophe. Dès le premier moment, on sait que le rebelle va mourir. Et il marche à la mort. Donc vous voyez déjà l'unité avec ce que j'ai écrit par la suite. Mais pendant longtemps, je me suis dit, pourquoi donc j'ai appelé ça les chiens stésés ? Et finalement, je crois, je me suis rendu compte que chez moi, la mort est toujours liée au chien. Et j'ai cherché, mais pourquoi c'était toujours lié au mot chien, la mort ? Et j'ai fini par découvrir que ce n'est pas du tout une chose rare. C'était vraiment un manque d'information, tout simplement. Mais cette chose qui me paraissait plus ou moins individuelle s'est retrouvée effectivement dans de très nombreuses civilisations. Et rappelez-vous que Anubis, le dieu de la mort, il a une tête de chien. Et chose très curieuse, tout ce que j'ai écrit est déjà dans Les chiens stésés.
Pendant que le rideau se lève lentement sur le premier acte de la tragédie de Aimé Césaire, on entend l'écho.
Bien sûr qu'il va mourir, le rebelle. Oh, il n'y aura pas de drapeau, même noir. Pas de coup de canon, pas de cérémonial. Ça sera très simple. Quelque chose qui, de l'ordre évident, ne déplacera rien, mais qui fait que les coraux au fond de la mer, les oiseaux au fond du ciel, les étoiles au fond des yeux des femmes, tressailleront le temps d'une larme ou d'un battement de paupières. Bien sûr qu'il va mourir, le rebelle. La meilleure raison étant qu'il n'y a plus rien à faire dans cet univers invalide. Confirmé prisonnier de lui-même, qu'il va mourir comme cela est écrit en filigrane dans le vent et dans le sable, par le sabot des chevaux sauvages et les boucles des rivières. Gibier de morgue, ce ne sont pas des larmes qui te conviennent. Ce sont les faucons de mes poings et mes pensées de silex. C'est ma muette invocation vers les dieux du désastre. Architecte aux yeux bleus, je te défie. Prends garde à toi, architecte. Car si meurt le rebelle, ce ne sera pas sans avoir fait clair pour tous que tu es le bâtisseur d'un monde de pestilence. Architecte, prends garde à toi. Qui t'a sacré ? En quelle nuit as-tu troqué le compas contre le poignard ? Architecte, sourd aux choses claires comme l'arbre, mais fermé comme une cuirasse, chacun de tes pas est une conquête et une spoliation et un contresens et un attentat. bien sûr qu'il va quitter le monde, le rebelle. Ton monde de viol où la victime est par ta grâce une brute et un impie. Architecte Orcus, sans porte et sans étoile, sans source et sans orient. Architecte à la queue de Pan, au pas de Cancer, à la parole bleue de champignons et d'acier, prends garde à toi.
Nous sommes maintenant dans une vaste prison, peuplée de nègres, candidats à la folie et à la mort. Les folles.
Rentrez chez vous, jeune fille. Il n'est plus temps de jouer. Les orbites de la mort poussent des yeux fulgurants à travers le mycablème.
C'est une devinette ?
C'est la saison des étoiles brûlantes qui commence.
Ah, c'est un conte.
L'île raidit ses pattes d'araignée venimeuse sur la gadoue des baracones.
Ouh, 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 ouh.
Jeune fille, respectez les étrangers qui passent sur les riches ornières du crépuscule.
Puis les folles s'écartent et paraît l'administrateur.
Et nous leur aurions volé cette terre. Ah non, mais ce n'est pas la même chose, nous l'avons prise. À qui ? À personne. Dieu nous l'a donnée. Et de fait, est-ce que Dieu pouvait tolérer qu'au milieu du remous de l'énergie universelle se prostrât cet énorme repos, ce tassement prodigieux, si j'ose dire, ce provoquant avachissement? Oui, nous l'avons prise. Oh, pas pour nous. Pour tous. Pour la restituer, inopportune stagnation, à l'universel mouvement. Et pour que tous en profitent, comme un scrupuleux fermier, comme un mandataire fidèle, nous la garderons. Peuple ingrat. C'est d'ailleurs un point à débattre s'il y a au monde, en dehors de nous, quelque peuple qui pense, je dis qui vraiment pense, et non qui rumine le confus mélange de quelques brumes d'idées ramenées à ras de cervelle, toutes tièdes de leur respiration ou de leur sommeil. Ah, nous sommes seuls. Et quel fardeau. Porter à soi tout seul le fardeau de la civilisation.
L'administrateur s'éloigne. L'amante s'approche du rebelle.
Embrasse-moi. La vie est là. Le bananier ordéaillon lustre son sexe violet. Une poussière étincelle, c'est la fourrure du soleil. Un clapotis de feuilles rouges, c'est la crinière de la forêt. Ma vie est entourée de menaces de vie, de promesses de vie.
Ô mort, où la faim n'avarie, ô dents douces, deux enfants noirs sur ton seuil, ils sont sans parentage. Mort grasse, deux enfants maigres se tenant par la main sur ton seuil, ils sont crépusculaires et faillis.
Ô mère, ô ressac, ô troupeau de flammes furibondes, moutonnez vos semences.
Ô mort, deux enfants noirs dans ton soleil, sois l'heure tranquille et tiède. Ô mort dévoreuse de pigments, grande égale, grande juste, sans shérif ni gendarme, grande enrouleuse, grande endormeuse de frères.
Embrasse-moi, l'heure est belle. Qu'est-ce que la beauté sinon ce poids complet de menaces, que fascine et séduit à l'impuissance le battement désarmé d'une paupière.
Qu'est-ce que la beauté, sinon l'affiche lacérée d'un sourire sur la porte foudroyée d'un visage? Qu'est-ce que mourir, sinon la face pierreuse de la découverte, le voyage hors de la semaine et de la couleur à l'envers du soleil?
Ne calomnie pas le soleil. Est-ce que je maudis l'ombre, moi? Je te chéris, ombre, pêcheur des beaux crins chevelus du soleil, dans tes ruisseaux incertains, ô le vent, et ses doigts d'orpailleurs attardés.
Ô mort, ô reine, ô tisseuse aux bons bras, ô cardeuse, aux doigts froids sans onglets. Nous sommes là, devant toi, deux râleuses et cagneux au travers de la chaîne. Et vers le simple silence, lancez votre navette faite de vers somptueux.
Beaux doux amis, le ciel ingrat sans nous se peuplera-t-il de faucons dessillés? Les huîtres perlières sans nous, sous le couvercle du temps, apaiseront-elles de longs gestes dormants le serpentement de la blessure obscure? Beaux doux amis, sans nous le vent s'en ira-t-il des florents gémissant vers la tente cambrée?
Le parfum de la mandragore s'est séché. La colline chasse sur ses haussières. Les grands remous des vallées font des vagues. Les forêts dématent, les oiseaux font des signaux de détresse où nos corps perdus bercent leurs épaves blanchies. J'ai capté dans l'espace d'extraordinaires messages, pleins de poignards, de nuit, de gémissements. J'entends plus haut que les louanges une vaste improvisation de tornades, de coups de soleil, de maléfices, de pierres qui cuisent de petits jours étranges. L'engourdissement bu à petites gorgées.
Un oiseau sans peur jette son cri de flamme jeune dans le ventre chaud de la nuit.
Un grand brasier de prunelles rouges et de crabes. Un ensemencement pour voir de mouches, de palabres, de mauvais souvenirs, de pistes de termites, de fièvres à guérir, de torts à redresser, un bâillement d'alligator, une immense injustice.
Après « Et les chiens se taisaient », vous avez écrit « Le roi Christophe » qui a été récemment monté à Paris par Jean-Marie Serrault. Pouvez-vous nous parler de cette pièce ?
Oui, alors voilà, j'ai écrit trois pièces. J'ai écrit « Et les chiens se taisaient », j'ai écrit « Le roi Christophe » et je viens de terminer une saison au Congo. Eh bien, pour moi, ce n'est pas très différent. La fabulation peut être que différente, une facette est plus ou moins éclairée, mais enfin, au fond, c'est toujours la même chose. Et je pense que c'est comme ça pour tout homme et pour tout poète. Ce sont des tragédies. Autrement dit, c'est toujours le cérémonial de la mort. C'est la marche d'un individu vers la mort. Bon. Mais dans « Et les chiens se taisaient », c'est un homme tout seul avec ses fantasmes et avec ses cauchemars ou avec ses rêves. Finalement, on peut dire que c'est un homme qui incarne une valeur et qui se brise, qui se débat avec lui-même. Le roi Christophe, c'est déjà autre chose. C'est également la marche à la mort, c'est également un homme qui se débat, et lui aussi, il incarne une valeur différente, puisqu'ici, c'est à la fois la liberté et le pouvoir, et qui se brise contre un obstacle. Et cet obstacle, ce n'est pas tellement un obstacle intérieur, encore qu'il y ait quand même des obstacles intérieurs, mais enfin, l'obstacle majeur, en la circonstance, c'est le peuple auquel il appartient. Ce n'est pas une histoire que j'ai inventée. Il n'en est rien, le roi Christophe, c'est un personnage très réel que j'ai rencontré au moment où j'écrivais un livre, c'est Toussaint Louverture. C'est un homme qui a existé, qui a été nommé général par les Français, et nous connaissons fort bien sa vie. Et il a régné pendant une quinzaine d'années. Et les vestiges de son œuvre existent encore en Haïti, puisqu'on peut admirer encore les ruines de son très beau château et les ruines absolument impressionnantes d'une formidable citadelle qu'il a construite dans la ville du Cap, dans le nord de Haïti. Cette vie m'avait beaucoup retenu par son pittoresque même. Et une vie extrêmement curieuse, presque shakespearienne. On croirait vraiment que c'est une chose qui a été inventée. Cet homme, ancien esclave, puis général, de rebelle, puis président de la République, puis roi, se donnant une cour comme Louis XIV, avec une étiquette extrêmement méticuleuse, régnant sur son pays de manière despotique, puis victime d'une attaque d'apoplexie, dans une église, après des troubles hallucinatoires, et puis faire face à la révolte de ses sujets, se tirant une balle, avec d'ailleurs une très grande noblesse, enfin. Et ce personnage me paraît extrêmement curieux, du point de vue humain, si vous voulez. Et puis alors, en dehors de cet intérêt historique, cet intérêt psychologique, il m'a semblé que dans le roi Christophe se posait toute une série de problèmes qui sont exactement les mêmes qui se posent à l'heure actuelle dans les pays qui étaient encore tout récemment des colonies. Vous voyez bien les événements qui se passent un peu partout. Tout ce drame humain, très largement humain, prend un relief tout particulier en Afrique. Mais j'insiste beaucoup, je crois que ce n'est pas propre à l'Afrique. Et pour ma part, moi, j'ai toujours pensé que des Christophe blancs, ils s'en trouvent, si je puis dire, à la pelle dans toute l'histoire, aussi bien l'histoire de France que l'histoire de Russie. Après tout, il m'a semblé que, par conséquent, à travers le roi Christophe, on pouvait évoquer des problèmes très modernes et très actuels.
Et nous sommes maintenant dans le palais du roi Christophe. Vasté, baron secrétaire de Christophe, et Magny, général et duc de Plaisance, parlent au milieu de la foule des courtisans.
Ce roi noir, un conte bleu, n'est-ce pas? Ce royaume noir, cette cour, parfaite réplique en noir de ce que la vieille Europe a fait de mieux en matière de cour.
Mon cher Vasté, je suis un vieux soldat. J'ai commandé sous Toussaint et Dessalines, et je vous dirai tout franc que je suis mal fait à ces manières courtisanesques dont vous avez l'air de faire vos délices.
Mon cher collègue Magny, vous le duc de Plaisance, tenir ce discours.
Avec nos titres ronflants, duc de la limonade, duc de la marmelade, comte de Troubonbon. Nous avons bonne mine, vous pensez, les Français s'en tiennent les comptes.
Homme de peu de foi. Allons, le rire des Français ne me gêne pas. Marmelade, pourquoi pas? Pourquoi pas limonade? Ce sont des noms à vous remplir la bouche, gastronomique à souhait. Après tout, les Français ont bien le duc de foie et le duc de bouillon. Est-ce plus ragoûtant? Il y a des précédents, vous voyez. Et quant à vous, Magny, parlons sérieusement. Avez-vous remarqué qui l'Europe nous a envoyé quand nous avons sollicité l'aide de l'assistance technique internationale? Pas un ingénieur, pas un soldat, pas un professeur. Un maître de cérémonie. La forme, c'est ça, mon cher, la civilisation, la mise en forme de l'homme. Pensez-y, la forme, la matrice d'où monte l'être, la substance, l'homme même, enfin tout. Le vide, mais le vide prodigieux, générateur et plasmateur.
Que signifie ce galimatière?
Il y en a un qui le comprend d'instinct, c'est Christophe. Avec ses formidables mains de potier pétrissant l'argile haïtienne, lui du moins, je ne sais s'il sait, mais mieux, il sent la flairant la ligne qui serpente de l'avenir. La forme, quoi. C'est quelque chose, croyez-moi, dans un pays comme le nôtre.
Au diable, vos rêveries d'esthéticien gourmet! S'il m'eût cru, au lieu de se faire oindre d'un peu de graisse de cacao et de se faire ceindre la tête d'une couronne, il se fût ceint les reins de son baudrier et l'épée au poing, nous eussions donné de l'éperon vers Port-au-Prince, où il y a tant de belles terres à prendre et de scélérats à pourfendre.
Nous voici maintenant dans la villa du roi Christophe, le jour du repas anniversaire du couronnement. Christophe et Madame Christophe.
Laissez du temps au temps. Mais nous n'avons pas le droit d'attendre, quand c'est précisément le temps qui nous prend à la gorge. Sur le sort d'un peuple, s'en remettre à la pluie, aux saisons, au soleil. Drôle d'idée.
Christophe, je ne suis qu'une pauvre femme, moi. J'ai été servante, moi la reine, à l'auberge de la couronne. Une couronne sur ma tête ne me fera pas devenir autre que la simple femme, la bonne négresse qui dit à son mari « Attention !» Christophe, à vouloir poser la toiture d'une case sur une autre case, elle tombe dedans, où se trouve grande. Christophe, ne demande pas trop aux hommes et à toi-même, pas trop. Et puis je suis une mère. Et quand parfois je te vois emporter sur le cheval de ton cœur fougueux, le mien à moi trébuche, et je me dis, pourvu qu'un jour on ne mesure pas au malheur des enfants la démesure du père. Nos enfants, Christophe, songe à nos enfants. Mon Dieu, comment tout cela finira-t-il?
Ah ah. Je demande trop aux hommes. Mais pas assez aux nègres, madame. S'il y a une chose qui, autant que les propos des esclavagistes, mérite, c'est d'entendre nos philanthropes clamer, dans le meilleur esprit sans doute, que tous les hommes sont des hommes et qu'il n'y a ni blanc ni noir. C'est penser à son aise et hors du monde, madame. Tous les hommes ont même droit. J'y souscris. Mais du comment l'eau Il en est qui ont plus de devoirs que d'autres. Là est l'inégalité. Une inégalité de sommation. Comprenez-vous? À qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis tous, sans privilège, sans particulière exonération, ont connu la traite, la déportation, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte, que tous, ils ont reçu plaqué sur le corps, au visage, l'omni, niant crachat. Nous seuls, madame, vous m'entendez, nous seuls les nègres. Alors, au fond de la fosse, c'est bien ainsi que je l'entends, au plus bas de la fosse, c'est là que nous crions, de là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil, et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le pied qui s'arc-boute, le muscle qui se tend, les dents qui se serrent, la tête. Oh, la tête large et froide. Et voilà pourquoi, madame, il faut en demander aux nègres plus qu'aux autres. Plus de travail, plus de foi, plus d'enthousiasme. Un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir gagné chaque pas. C'est d'une remontée jamais vue, messieurs, que je parle. Et malheur à celui dont le pied flanche.
Un roi, soit. Christophe, sais-tu comment dans ma petite tête crépue je comprends un roi? C'est au milieu de la savane, ravagée d'une rancune de soleil, le feuillage dru et rond du gros mombin, sous lequel se réfugie le bétail, assoiffé d'ombre. Mais toi, je me demande parfois si tu n'es pas plutôt à force de tout entreprendre, de tout régler, le gros figuier qui prend toute la végétation alentour et l'étouffe.
Ah, cet arbre s'appelle un figuier maudit. Pensez-y, ma femme. Ah, je demande trop aux nègres. Tenez, écoutez. Quelque part dans la nuit, le tam-tam bat. Quelque part dans la nuit, mon peuple danse. Et c'est tous les jours comme ça, tous les soirs. L'ocelot est dans le buisson, le rôdeur à nos portes, le chasseur d'hommes à l'affût, avec son fusil, son filet, sa muselière, le piège est prêt. Le crime de nos persécuteurs nous cerne les talons, et mon peuple danse. Ah, mais qui? Qui donc m'offrira plus qu'une litanie de prêtres, plus qu'un éloge versifié, plus qu'un boniment de parasite, plus que les prudences d'une femme. Je dis quelque chose qui ce peuple au travail mette, quelque chose qui éduque. Non. Qui édifie ce peuple?
Il y a, je crois, certaines qualités importantes de caractère que tout le monde s'accorde à trouver chez les peuples noirs.
Tous les explorateurs qui ont été en Afrique les premiers, et pas ceux qui ont été les fourriers des colonialistes, mais les premiers ont toujours insisté beaucoup sur la gentillesse des gens. Et cette gentillesse, pas seulement gentillesse de manière, courtoisie, mais vraiment une profonde bonté. Lorsque les voyageurs arabes arrivent jusqu'au Mali, et ils parlent de la bonté et de l'esprit de justice des gens. Lorsque les explorateurs anglais, les frères Linder, arrivent dans une partie de ce qui constitue à l'heure actuelle le Mali, ils sont frappés par les mêmes qualités. Et ils racontent qu'en circonstance, il a été sauvé par une femme qui a accueilli le blanc fatigué, qui l'a reçu, qui l'a soigné, qui l'a nourri, et qui lui a chanté des chansons et qui lui doit la vie. Par conséquent, je crois que c'est vrai, c'est un trait de caractère. Et je crois que tout cela, cette qualité, est tout simplement branchée, c'est la conséquence d'une chose qui est très importante en Afrique, qui est une sorte d'humanisme. Il y a un profond humanisme. Le père Temple, ça, par exemple, a très bien montré le rôle de la philosophie dans le comportement des Bantous. Le respect des forces vitales. Ne pas détruire une parcelle de vie, car toutes ces parcelles de vie ont leur importance dans l'ensemble. Et je crois que tout ça est extrêmement important et dépasse très largement le monde bantou.
La petite tâche, si j'ose dire, qu'on pourrait peut-être reprocher au monde noir, c'est le monde de la sorcellerie, le monde du sorcier qui était peut-être néfaste.
Oui, mais vous savez... D'abord, premièrement, je me garde de faire une apologie sans nuance du monde noir. Je pense que vous me parliez des qualités, bien sûr, mais je signale cette qualité, elle est réelle, je dis qu'elle est réelle, mais ceci étant dit, il ne faut pas voir que le côté positif et également le côté négatif. La sorcellerie, c'est tout simplement un aspect de la religion. Il est clair que ces religions sont des religions qui sont terriblement moyenâgeuses. Ce qui, dans ces religions, peut nous choquer, c'est exactement ce qui vous choquera lorsque vous lisez les grimoires de sorciers du Moyen-Âge. L'exemple qui vient à l'esprit du français moyen, par exemple, dit « oui, ils étaient cannibales ». Manque de peau, si je puis dire. Et il se trouve que les sociétés, certaines sociétés cannibales, ce sont parmi les sociétés les plus civilisées et qui parfois ont le plus grand sens de l'art. Quand on voit que les Aztèques, par exemple, étaient cannibales, ou pratiquaient un capitalisme rituel, cela ne diminue en rien et la très grande valeur de leur civilisation. La grande différence entre une barbarie primitive et une barbarie industrielle, c'est que la seconde est beaucoup plus grave.
Oui. Voulez-vous que nous revenions maintenant au théâtre et à sa place dans vos préoccupations et dans celles des Africains en général?
Je pense que la préoccupation que j'ai à l'heure actuelle du théâtre provient en grande partie de la situation même dans laquelle se trouve les peuples noirs. Les peuples noirs sont confrontés à l'heure actuelle avec de très grands problèmes, avec d'immenses problèmes. Je dois dire que je suis souvent angoissé quand je pense à l'avenir de ces pays africains ou au sort des nègres américains ou au sort des Antilles. Et alors, il me semble que cette problématique même débouche tout naturellement dans le théâtre. Parce que le théâtre, dans mon esprit, n'est pas du tout un théâtre de mots d'ordre. Il ne s'agit pas tout simplement d'apporter une réponse toute faite. Je considère que le théâtre, c'est la vie qui réfléchit sur elle-même pour essayer de se saisir et de s'appréhender. Et par conséquent, il est tout à fait normal qu'au moment où l'Afrique se cherche, on voit apparaître un peu partout dans tous ces pays-là un besoin de théâtre, il y a une fin de théâtre. Et j'ai essayé, de mon côté, de répondre à ce besoin.
Et voici quelques scènes de la dernière pièce de Aimé Césaire, Une saison au Congo. Nous sommes dans le quartier africain de Leopoldville. Un attroupement d'indigènes autour d'un bonimenteur, sous l'œil plus ou moins inquiet de deux agents de police belges.
Mes enfants, les Blancs ont inventé beaucoup de choses et ils vous ont apporté ici et du bon et du mauvais. Sur le mauvais, je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de sûr et de certain, c'est que parmi le bon, il y a de la bière. Eh oui, mais buvez, buvez donc! D'ailleurs, n'est-ce pas la seule liberté qu'ils nous laissent? On ne peut pas se réunir sans que ça se termine en prison. Et le tout à l'avenant. Meeting, prison. Écrire, prison. Quitter le pays, prison. Mais voyez-vous-même? Depuis un quart d'heure que je vous harangue et leurs flics me laissent faire. Et je parcours le pays de Stanleyville au Katanga et leurs flics me laissent faire. Motif, je vends de la bière. Et je place de la bière. Si bien que l'on peut affirmer que le boc de bière est désormais le symbole de notre droit congolais et de nos libertés congolaises. Mais attention, et oui, comme il y a dans un même pays des races différentes, comme en Belgique même, ils ont leurs flamands et leurs wallons, et chacun sait qu'il n'y a pas pire que les flamands, il y a bière et bière, des races de bière, des familles de bière. Et je suis venu ici parler de la meilleure des bières, de la meilleure des bières du monde, la Polar. Polar, la fraîcheur des pôles sous les tropiques. Polar, la bière de la liberté congolaise. Polar, la bière de l'amitié et de la fraternité congolaise.
Ouais, mais j'ai entendu dire que la polar rend impuissant. Que la polar diminue le ngolo. Répondez à cela, monsieur.
Remarquez, citoyens, que je ne réponds pas à votre provocation par la provocation et que je ne vous demande pas de m'envoyer votre femme ou votre sœur.
Oh, celui-là, c'est un mal. Hey, je me tourne vers les filles que voilà. Ces beaux bras de filles. Et je leur pose la question. Allons, mes filles, mes plaisantes au clair sourire, mes filles au ventre souple de serpent. Ne répondrez-vous pas?
les deux policiers.
Pas mal, son boniment. Il a du bagou.
Oui, mais inquiétant. Son boc de bière est une vraie boîte à malice. Qu'est-ce qu'il en sort? Je vais lui en toucher deux mots.
Ben, fais pas gaffe. Il faut vendre la Polar. Hein? Tu sais qui est le patron de la Polar.
Mais comment veux-tu que je le sache, moi? Je sais seulement que ce nègre est dangereux.
Ah, tu es jeune. Hein? Je te le dis, derrière Polar, il y a le Minur. Mais oui, le ministre du Congo. Ça te chiffonne. Mais c'est comme ça. Alors, tu comprends? Hein? Oui. Allez, allez, viens. Viens, on va prendre une chope.
Ben, je veux bien. Mais donne quand même le nom du pèlerin. Quelque chose me dit qu'on en aura besoin.
Il est fiché, rassure-toi. Son nom, Patrice Lumumba.
Autre scène entre le roi Basilio et le général Massens.
Ce peuple barbare, jadis terrassé par la rude poigne de Boula Matari, nous l'avons pris en charge. Et oui, la Providence nous a commis ce soin. Et nous l'avons nourri, soigné, éduqué. Si nos efforts ont pu vaincre leur nature, si nos peines rencontrent salaire par cette indépendance qu'aujourd'hui je leur apporte, nous allons l'éprouver. Qu'ils fassent donc l'essai de leur liberté. Ou bien ils donneront à l'Afrique l'exemple que nous-mêmes donnons à l'Europe, celle d'un peuple uni, décent, laborieux, et l'émancipation de nos pupilles nous fera dans le monde quelque honneur, ou bien la racine barbare, alimentée dans le puissant fond primitif, reprendra sa vigueur malsaine, étouffant la bonne semence inlassablement semée pendant 50 ans par le dévouement de nos missionnaires. Et alors ?
Et alors ?
Nous aviserons en temps utile, Massens. Faisons plutôt confiance à la nature humaine, voulez-vous ?
Vous savez, Majesté, que je ne suis guère enthousiaste de ces expériences, lesquelles portent au demeurant la marque de la hardiesse et de la générosité qui caractérise le génie de votre Majesté. Mais puisque vous le voulez. Du moins, cette liberté dont ils ont fumé le mauvais chanvre et dont les émanations les enivrent de si déplorables visions, qu'ils sentent, qu'ils la reçoivent, et non qu'ils la conquièrent. Majesté, je ne les crois pas si obtus qu'ils ne sentent toute la différence qui sépare un droit qui leur serait reconnu d'un don de votre munificence royale.
Rassurez-vous, Massens. Je leur marquerai dans les formes les plus expresses. Mais les voici.
Arrive Kala Lubu, s'adressant à la foule.
Monsieur le premier bourgmestre. Oh, excusez-moi, c'est monsieur le premier ministre que je veux dire. Mon souci est que les choses se passent bien. Je veux dire convenablement. Les règles de la politesse nous en font un devoir. Les règles de la politique. Le temps serait mal choisi de plaintes, de récriminations, de paroles tonitruantes et malsonnantes. L'enfantement se fait dans la douleur. C'est la loi. Mais quand l'enfant naît, on lui sourit. Je voudrais aujourd'hui en Congo tout sourire. Ah, mais voici le roi. Vive le roi! Sire, la présence de votre auguste majesté aux cérémonies de ce jour mémorable constitue en éclatant un nouveau témoignage de votre sollicitude pour toutes ces populations que vous avez aimées et protégées. Elles ont reçu votre message d'amitié avec tout le respect et toute la ferveur dont elles vous entourent et garderont longtemps dans leur cœur les paroles que vous venez de leur adresser en cette heure solennelle. Elles sauront apprécier tout le prix de l'amitié que la Belgique leur offre. Elles s'engageront avec enthousiasme dans la voie d'une collaboration sincère. Quant à vous, Congolais, mes frères, je veux que vous sachiez, que vous compreniez que l'indépendance, amie des tribus, n'est pas venue pour abolir la loi ni la coutume. Elle est venue pour les compléter, les accomplir et les harmoniser. L'indépendance, amie de la nation, n'est pas venue davantage pour faire regresser la civilisation. L'indépendance est venue, tenue par la main, d'un côté par la coutume, de l'autre par la civilisation. L'indépendance est venue pour réconcilier l'ancien et le nouveau, la nation et les tribus, Restons fidèles à la civilisation. Restons fidèles à la coutume. Et Dieu protégera le Congo.
Lumumba se dresse.
Moi, sire, je pense aux oubliés. Nous sommes ceux que l'on posséda, que l'on frappa, que l'on mutila. Ceux que l'on tutoyait, ceux à qui on crachait au visage. Boy cuisine, boy chambre, boy comme vous dites, lavandière. Nous fûmes un peuple de boy, un peuple de Wibwana, et qui doutait que l'homme pût ne pas être l'homme n'avait qu'à nous regarder. Sire, toute souffrance qui se pouvait souffrir, nous l'avons soufferte. Toute humiliation qui se pouvait boire, nous l'avons bu. Mais, camarades, le goût de vivre, ils n'ont pu nous l'affadir dans la bouche. Et nous avons lutté avec nos pauvres moyens. Lutté pendant 50 ans. Et voici, nous avons vaincu. Notre pays est désormais entre les mains de nos enfants. Nôtre ce ciel, ce fleuve, ces terres. Nôtre le lac et la forêt. Nôtre Karasimbi, Nyaragongo, Nyamarujira, Mikeno. Et où montagne montée de la parole même du feu. Congolais, aujourd'hui est un jour grand. C'est le jour où le monde accueille parmi les nations Congo, notre mère, et surtout Congo, notre enfant. L'enfant de nos veilles, de nos souffrances, de nos combats. Camarades et frères de combat, que chacune de nos blessures se transforme en mamelles, que chacune de nos pensées, chacune de nos espérances soit rameau à brasser l'air à neuf. Que chacune de nos pensées, chacune de nos espérances soit rameau à brasser à neuf l'air pour Congo. Tenez, je l'élève au-dessus de ma tête. Je le ramène sur mon épaule. Trois fois je lui crache au visage. Je le dépose par terre et vous demande à vous, en vérité, connaissez-vous cet enfant? Et vous répondez tous, c'est Congo, notre roi. Je voudrais être toucan, le bel oiseau pour être à travers le ciel, annonceur à race et langue, que Congo nous est né, notre roi. Congo, qu'il vive. Congo, Tarné, qu'il suive l'épervier. Congo, Tarné, qu'il clôture la palabre. Camarades, tout est à faire, ou tout est à refaire, mais nous le ferons, nous le referons, pour Congo. Nous reprendrons les unes après les autres toutes les lois pour Congo. Nous réviserons les unes après les autres toutes les coutumes pour Congo. Traquant l'injustice, nous reprendrons l'une après l'autre toutes les parties du vieil édifice et du pied à la tête pour Congo. Tout ce qui est courbé sera redressé, tout ce qui est dressé sera amélioré pour Congo. Je demande l'union de tous, je demande le dévouement de tous pour Congo. Uhuru!
Entre quatre banquiers.
C'est horrible. C'est horrible. Ça devait mal finir.
Ah, ce discours. Cette fois, ça y est, on peut faire sa valise.
C'est évident. Là où l'ordre défaille, le banquier s'en va.
Oui. Sur le Congo, cette fois, dérive sans valise.
J'avais misé sur lui. Qui a bien pu lui rédiger ce discours? Et dire que je voulais faire de lui un homme d'État. C'est de se casser le cou, tant pis pour lui. Dommage. C'est dommage.
Ici passe le joueur de Cora.
À prendre le vent, nul n'est plus qu'eux habiles. Ils n'ont pas gueule d'assassin, mais blairent à flairer toute odeur dans le vent. Ce sont les gens du Lupetto. Ce sont hommes d'appétit. Pour la bouffe, tout leur est râtelier. Ce sont les hommes du Lupetto. Le Lupetto, c'est de l'argent. Ils ne sont ni bons ni méchants. Ce sont les hommes du Lupetto.
Félicitations, monsieur. Du beau travail, en vérité.
Collègue, je ne crois pas mériter votre sévérité. Une aide politique qui de risque comporte.
Voyez comme il s'en tire des phrases, des généralités. C'est du toupet, monsieur, quand votre plan avorte.
Des phrases? Non, pas. Du cran, collègue. À la moindre chiquenaude. Comme une descente de lit, on ne va pas s'allonger. Tenez, suivez l'idée. Vous avouerez, messieurs, que c'est de bonne logique si Léo obtient qu'on s'autodétermine.
Quelle est, d'après vous, la participation de l'art noir dans le monde, dans notre civilisation, dans l'évolution de notre civilisation?
Ben, il me semble que l'art noir est arrivé à un moment très précis et où vraiment on avait besoin. Si l'art noir n'avait pas existé, de grands artistes européens l'auraient inventé. Et l'art noir arrive à un moment, la révélation de l'art noir arrive à un moment où véritablement l'art européen se meurt d'académisme. On ne voit plus les choses, on ne sent plus les choses. Il y a une telle tradition de l'école qui s'interpose entre le monde et les choses. Et l'art noir arrive brusquement, fait éclater tous les poncifs, donne une sorte de fraîcheur à la vue et en même temps montre que par-delà tous les académismes, ce qui est vraiment la chose essentielle, c'est le rythme. Ce rythme corporel, ce rythme des choses. Mais je crois que c'est le service que l'art noir a rendu à l'art européen. Le rythme n'étant pas du tout lié à la musique, mais trouvant également son expression, par exemple, la sculpture.
D'habitude, la tradition a tendance à séparer l'homme de la nature, alors que les pays noirs, qui je crois quand même sont des pays de grande tradition, je crois que leur tradition a gardé ce particularisme de ne pas séparer l'homme de la nature.
J'insiste beaucoup sur cette chose. Je crois que cette grande connivence, la plupart des sociétés noires l'ont maintenue. Je me rappelle le poème de Bikago Diop qui disait « Écoute plus souvent les êtres que les hommes, les choses que les hommes ». Et cela signifie qu'il y a une sorte de communion entre l'homme et la nature. En Nigeria, quand un bûcheron veut abattre un arbre, il commence par faire une petite prière à l'esprit de l'arbre. En lui demandant pardon, il dit « Je serai bien sûr obligé de t'abattre, mais en fait, je te demande de me pardonner. » Eh bien, tout ça peut paraître puéril, mais cela me paraît traduire une chose qui est extrêmement profonde, c'est le respect de ce monde dans lequel nous vivons et cette impression qu'il n'y a pas une coupure, une séparation entre l'homme et le monde.
Je pense que le peuple africain, n'ayant pas perdu ce contact avec la nature, ce contact que la plupart des peuples occidentaux ont perdu, a donc, au fond, pour lui, une force que les peuples occidentaux n'ont pas, qui doit lui permettre peut-être une évolution au-delà de l'occidentalisme.
C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite, non sans terreur, non sans appréhension, car il y a de telles forces qui sont déchaînées, la machine est une telle force. Et la politique de puissance est une telle force. Parfois, on se prend à avoir peur. Est-ce que le monde ne sera pas, tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, bon gré mal gré, une immense Amérique, l'Amérique étant telle qu'elle est?
Oui, mais à côté de crainte, il y a naturellement des espoirs. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'avenir de l'Afrique?
Ce que j'aurais souhaité d'abord, c'est que l'Afrique garde sa foi en elle-même, et que l'Afrique ne s'américanise pas, qu'elle ne se vulgarise pas. Bien sûr qu'elle profite de tout ce qu'il y a dans le monde, car il serait puéril de croire que l'Afrique ou les peuples de couleur pourront s'isoler et pourront vivre une sorte de splendide isolement. Ce n'est pas vrai. Et nous savons bien qu'à l'âge où nous sommes, l'âge des communications extrêmement rapides, tout le monde vit dans le monde. Mais ceci étant dit, je crois que, et là les élites noires ont un rôle considérable à jouer, je crois qu'il faut que l'Afrique ne se dépersonnalise pas, et qu'elle reste elle-même. Je crois que cela est possible. Nous avons de grands exemples, celui du Japon par exemple. Le Japon qui est un des plus grands pays industriels du monde, mais qui a su conserver son âme et son particularisme. Israël aussi. Eh bien, je crois qu'il faut que l'Afrique s'inspire de ces exemples-là, et que tout en améliorant les conditions de vie de l'homme, elle ait pour souci de préserver ce qui fait la valeur de sa civilisation, cet humanisme fondamental dont je parlais tout à l'heure, et ce sens de l'homme, ce sens du monde qui a donné naissance à cet art si magnifique.
Et puisque vous avez parlé d'âme noire, donc un peu d'impression générale, voulez-vous que nous parlions maintenant de foule noire?
Ah, une foule noire, moi je me rappelle très bien, enfin je pense à un exemple très particulier, ce sont les foules qui se réunissent à la Martinique, par exemple pour le carnaval ou bien pour des meetings politiques. Eh bien, ce qui frappe, c'est la vitalité, une prodigieuse vitalité, une allégresse du corps, une qui transcende, qui métamorphose littéralement ces individus. On a l'impression véritablement que par la foule, porté à son incandescence, on a vraiment l'impression que l'individu lui-même entre en état de grâce. Et ces foules, d'ailleurs, qui sont extrêmement gaies, sont toujours extrêmement bonnes. Il me semble même que le fait d'être ensemble, contrairement à, on parle de fureur bestiale, en général, c'est tout à fait le contraire dans ces pays-là, à la Martinique en particulier, tout au moins, puisque je parle d'un exemple que je connais bien. Il me semble que l'allégresse domine le tout et la plupart des foules que j'ai vues sont des foules joyeuses, détendues, exaltées et presque désarmées. Le cœur désarmé. Et ce sont des foules dansantes. Très naturellement, c'est une danse. Il n'est pas question d'une marche, mais le défilé politique, le défilé populaire devient une danse.
Au cours de ces instants, une émission réalisée par José Pivin qui vous a présenté aujourd'hui Aimé Césaire et l'Afrique. Des scènes des tragédies de Aimé Césaire et Les chiens se taisaient, la tragédie du roi Christophe et Une saison au Congo étaient interprétées par Alain Cuny, Sylvia Montfort, Douta Sec, Médondo, Jacqueline Scott-Lemoine, Lucien Lemoine, Catherine Georges, Suzanne Michel, André Fouché, Yvan Labéjoff, Jean Marconi, Gérard Dournel, Henri Gilabert, Jean Topard et Jean Negroni. Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Collaboration technique, Yann Paretoen. Assistant, Daniel Long.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 13 février 1966.
Éveilleur, arracheur, souffle, souffert, souffle à coureur, maître des trois chemins, tu as en face de toi un homme qui a beaucoup marché, depuis Elam, depuis Akkad, depuis Sumer. Maître des trois chemins, tu as en face de toi un homme qui a beaucoup porté, depuis Elam, depuis Akkad, depuis Sumer. J'ai porté le camp du commandant, j'ai porté le chemin de fer du commandant, j'ai porté la locomotive du commandant, le coton. Commandant, j'ai porté sur ma tête les nœuds qui se passent si bien de Coussinet, Dieu, la machine, la route, le Dieu du commandant. Maître des trois chemins, j'ai porté sous le soleil, j'ai porté dans le brouillard, j'ai porté sur les tessons de braise des fourmis maniant, j'ai porté le parasol, j'ai porté l'explosif. J'ai porté le carcan depuis Akkad, depuis Elam, depuis Sumer. Maître des trois chemins, maître des trois rigoles, plaise que pour une fois la première, depuis Akkad, depuis Elam, depuis Sumer. Le museau, plus tanné apparemment que le cale de mes pieds, mais en réalité plus doux que le bec minutieux du corbeau, et comme drapé des pluies amères que me fait ma grise peau d'emprunt, livré que les hommes m'imposent chaque hiver, j'avance à travers les feuilles mortes. De mon petit pas sorcier vers là où menace triomphalement l'inépuisable injonction des hommes, jetés au ricanement noueux de l'ouragan. Depuis Elam, depuis Akkad, depuis Sumer.